des livres plein les oreilles. Bonjour à vous toutes et vous tous qui nous écoutez via Balado, via CKVL. Bonjour aussi à tous les auditeurs de là-bas et puis surtout via Canal M qui produit l'émission des livres plein les oreilles. Je m'appelle Clotilde Seille et comme toutes les semaines, je viens vous faire la promotion de livres audio qui sont faits ici ou ailleurs, à l'extérieur de nos frontières. Je vous le dis souvent, mais cette émission-là est enregistrée avec 2 semaines d'avance. Autrement dit, cette émission-là qui va être assez printanière, puisqu'elle va nous arriver, elle va arriver dans vos oreilles la semaine du printemps. Aujourd'hui, il fait un temps printanier au moment d'enregistrer, mais en fin de semaine, c'est annoncé du pas beau, voyez-vous. Alors, on verra bien au moment où vous écouterez cette émission. Je ne sais pas, je ne suis pas devine, je n'ai pas de boule de cristal, alors je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Le printemps sera donc célébré via 2 livres printaniers, l'un plutôt réjouissant et l'autre peut-être un petit peu plus difficile. Et puis, au moment aussi de mettre cette émission en boîte, on disait ça à l'époque des rubans parce qu'on les mettait vraiment dans des boîtes, eh bien, nous venons d'apprendre la mort de Paul Hood et nous en sommes tous évidemment infiniment attristés. Paul Hood, que nous savions tous passionné de sport, entre autres, qui a prêté sa voix pour lire un livre, le livre qui est une bio de Sidney Crosby. Alors, pour le bonheur d'entendre encore cette voix, cette mémoire, et puis, disons-le, cette intelligence qui va tant nous manquer, nous en écouterons un extrait. Le classique du jour sera consacré à Oscar Wilde et il y aura une nouvelle rubrique qui va voir le jour. C'est le roman historique du jour et de la semaine, en fait. En seconde partie, Faline Bobier du CAEB viendra nous présenter 3 livres accessibles aux personnes à qui l'imprimer n'est plus un choix, puis nous finirons avec des nouveautés signées par des auteurs dont les noms et la renommée ne sont plus étrangers à personne. J'ai nommé Stephen King et Sylvain Tesson. Le printemps, donc. Charmant, n'est-ce pas? Que j'étais contente quand j'ai trouvé ça. Je dis, voilà qui va bien ouvrir cette émission-là. Le printemps, donc. Commençons par un printemps éblouissant à Ver Cottage. Ça, c'est de Lucy Daniels. C'est lu par Eve Reinkin. J'espère bien prononcer son nom. Nous sommes à Welford, sur la lande. Les arbres se sont parés de vert et les parcelles de fleurs dansent sous la courbe du ciel bleu. La vie semble sourire à Mandy Hope, qui fait partie de cette série, parce qu'il s'agit bel et bien d'une série Feel Good. Si vous cherchez un livre qui vous prend la tête, là, non, c'est pas ça. Mais un livre qui vous fait du bien, un livre charmant, eh bien, c'est celui-ci, Un printemps éblouissant à Ver Cottage, numéro 3 de cette série qui porte le même nom. Donc, tout va bien, son refuge pour animaux est une vraie réussite, elle est vétérinaire, elle a une très belle relation avec Jimmy March, bref, tout est pour le mieux. Mais, le retour des hirondelles, tiens, j'en ai vu une ce matin, marque aussi celui des orages, car si tout se passe bien avec Jimmy et ses 2 enfants, eux n'ont pas l'air ravis de partager, papa. Quand une usine menace de s'implanter non loin et que la maladie frappe son entourage, eh bien la jeune vétérinaire est en proie au doute le plus complet. Elle devra s'armer de beaucoup de courage et trouver du soutien pour se rappeler que dans le Yorkshire, le printemps est la plus jolie des saisons. En attendant, on retrouve Mandy dans ce rôle qu'elle adore, le rôle de vétérinaire.
La matinée était vraiment éblouissante, songea Mandy. Une brise légère caressait son visage, tandis que le soleil brillait dans un ciel dégagé. Même si elle avait déjà assisté à bon nombre d'agnolages, ces moments ne semblaient jamais perdre de leur magie à ses yeux. Trois nouvelles petites vies avaient débuté aujourd'hui et elle savait qu'elle avait participé à ce miracle. Elle observa le troisième agneau qui tentait déjà, à grand renfort de tremblement, de se mettre debout. Malgré la raideur de ses pattes avant, il était aussi déterminé à réussir que ses frères et sœurs qui appuyaient déjà leur tête contre le flanc de leur mère en quête de lait. « C'est ici, plus bas !» leur lança Mandy en tentant de leur montrer la bonne position, mais ils reculèrent la tête et secouèrent les oreilles. Tout irait mieux une fois que la brebis serait de retour chez elle et capable de se lever. Mandy laissa son regard errer sur la lande, si verdoyante sous l'immense courbe du ciel bleu. D'autres brebis étaient éparpillées au milieu des imposants rochers gris jonchant le paysage. Leur voix basse portait loin et les jeunes répondaient d'un bêlement aigu tout en gambadant sous le soleil. À quelques mètres de là, deux agneaux plus âgés enfouissaient leur tête sous le ventre de leur mère à la recherche de lait, leur queue tournoyant tandis qu'ils tétaient. Près de l'endroit où elle se tenait agenouillée, Mandy aperçut les taches jaunes d'une parcelle de lotiers corniculés dansant sous le vent. Ses yeux suivirent la ligne du mur de pierre sèche qui courait à travers le vallon. De l'autre côté de la vallée, les arbres de Lambswood avaient pris leur teinte vert clair. Le printemps était bien là. Dans cet écrin de nature, elle distinguait le toit foncé d'étendues sauvages, le cottage qu'elle avait acheté à l'automne dernier. Avant Noël, elle avait bien cru que les rénovations dont elle rêvait ne seraient jamais terminées, mais tout s'arrangeait maintenant. Mon chez-moi. Un mouvement plus loin sur la pente attira son attention. Une silhouette sombre sur un quad filait à travers champs. Elle sortit son portable. Malgré ce que M. Ruck avait dit de la qualité du signal par ici, elle avait quelques barres. Une main toujours posée sur la nuque de la brebis, elle tapa rapidement un message. « Bonjour, bel homme. » Au loin, le quad s'immobilisa. Il lui sembla que la silhouette, guère plus grande qu'un grain de sable, venait de glisser une main au fond de sa poche. « Bonjour, ma belle. » Suivi d'une émoticône baisée, s'affichèrent sur son écran et aussitôt le grain de sable avait redémarré. Mandy sourit. Jimmy Marsh, l'homme de sa vie si merveilleux, ne savait pas qu'elle l'espionnait de loin et elle se délecta de ce secret.
Vous avez l'air heureuse.
Mandy se retourna vers Gordon Ruck qui remontait la colline à grandes enjambées.
La journée a vraiment très bien commencé, confirma Mandy.
Ah, quoi de mieux qu'une fin de pastorale beethovenienne pour accompagner ces beaux jours anglais. J'en ai un autre pour vous qui est peut-être un petit peu moins réjouissant, mais pas mal fait du tout, lu par Émilie Lévesque ici. Ça s'appelle « Promets-moi un printemps ». Vous savez que quelle expression épouvantable. Faire une dépression lorsque le printemps revient. Il n'y a pas plus triste. Déjà, faire une dépression, c'est épouvantable. Mais lorsque les beaux jours reviennent, c'est encore, je trouve que c'est encore plus pire. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Mais la dépression n'a pas de saison. La dépression se fout des jours qui rallongent, de la boue dans nos jardins, du soleil qui réchauffe, etc. etc. Avec Fabienne, 30 ans, qui est le personnage central de ce livre « Promets-moi un printemps » signé Mélissa Perron. Elle a tout pour être heureuse, elle est indépendante de fortune, elle est peintre, sa carrière est prometteuse, sa maison est construite sur un grand terrain boisé au pied de la montagne, flanquée d'un atelier qui est son phare à elle. Mais à quoi bon tout cela désormais? Parce que la dépression a fauché la jeune femme. Du gros chat orange errant qu'elle nourrit, elle dit « Celui-là était comme moi, perdu. » Avis d'un lecteur sur Babelio, il y a une douceur lumineuse dans ce roman qui aborde le sujet de la dépression on y côtoie à la fois la détresse et l'enchantement, un titre qui nous rappelle quelque chose. On va écouter un extrait de « Promets-moi un printemps » de Mélissa Perron, c'est lu par Émilie Lévesque.
Je me garai devant le restaurant du Café du Mont et j'inspirai longuement. En entrant, Julia, la propriétaire, m'accueillit comme si nous ne nous étions pas vus depuis des lunes. Il est assis au fond là-bas. Je ne sais pas pourquoi il choisit toujours cette table, si loin. Il n'y a personne à cette heure. J'arrive avec deux cafés. Je mis quelques secondes à comprendre. Mes jambes ne voulaient plus avancer. J'étais là, debout entre les tables, la tuque de travers, les cheveux ébouriffés et le manteau ouvert laissant entrevoir que j'étais encore en pyjama. La honte était plus mordante que le froid et elle me grugeait tout entière. Friedrich continuait de lire la section nécrologique de son journal. « Et puis, ils vont tous bien? Ils sont en forme? » J'essayais d'être drôle, mais je n'y arrivais pas. Je pris place à la table devant lui. Après quelques minutes, Fred daigna me regarder. Il avait cette tête d'annonceur télé qui nous apprend une mauvaise nouvelle. Anna m'a appelé. De l'Argentine? De Paris, du Mexique ou de Sao Paulo. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? On est inquiet pour toi. J'avais envie de simuler un rire, de lui dire que c'était la saison qui ne m'allait pas et que je n'avais juste plus d'inspiration pour peindre. Que ça ne valait pas un appel outre-mer. J'avais envie de le rassurer, mais je n'avais pas la force de faire semblant. Des larmes tombèrent sur mon apron. Le logo du restaurant devint presque illisible. Je suis ici depuis 6 heures ce matin. Ça fait un mois que je viens chaque samedi. Je me suis dit que quand ton frigo serait vide, j'allais finir par te voir. J'ai été voir le médecin hier. Je fais une dépression. Je ne ferai pas le gars surpris. Je m'en doutais. Ce que je ne comprends pas, c'est que tu m'es poussé à partir. Je te laisse passer au travers et après on verra. Tu m'acceptes juste quand tout va bien? Qu'est-ce qui était si difficile à comprendre? Je n'avais plus rien d'attirant ou d'excitant pour lui. Je le voyais déjà en train de déployer toutes ses énergies pour que les miennes reviennent, et je me sentais coupable. Je ne savais même plus qui j'étais, ce que je souhaitais, ni comment faire pour continuer à passer à travers mes journées. Dans ces conditions, comment pouvais-je être une bonne amoureuse? Tu mérites mieux. Fred fronça les sourcils. Tu as raison. Il se leva, me plaqua un baiser sur le front et partit.
Voilà, lu par la voix que vous connaissez bien d'Émilie Lévesque, si vous êtes des fidèles de Canal M, puisqu'elle prête sa voix pour toutes sortes d'affaires, pour vous dire l'heure, pour vous dire les émissions à venir, pour vous dire bonjour, tout ça. Et c'était un extrait de « Promets-moi un printemps » de Mélissa Perron. C'était une mémoire gigantesque dans le cerveau d'un homme profondément bon, profondément généreux, intelligent, un type très aimé. Et c'est ce cerveau qui va le lâcher quand personne ne s'y attendait. Vous aurez compris que je parle de Paul Hood, disparu maintenant il y a 3 semaines au moment où vous entendez cette émission, mais ça vient juste d'arriver il y a quelques jours alors que je l'enregistre et je me suis dit, il faut quand même que je rende un hommage à cet homme dont la mort ne nous a pas laissé indifférents, personne, je pense, hein, du dernier de classe au plus érudit des hommes. Tout le monde aimait Paul Hood, tout le monde s'extasiait devant sa mémoire, son immense culture aussi, et sa curiosité. Que dire de sa curiosité? Passionné de sport autant que d'aviation et de tant d'autres choses, les frères Hood sont tombés dans la marmite hein, du hockey quand ils étaient petits. Paul Hood, le livre « Paul dans tous ses états », carnet d'Amérique, paru chez Libre Expression en novembre dernier, en novembre 2023, il n'aura pas eu l'occasion de pouvoir le lire, mais je suis sûre et certaine que ça faisait partie des prévisions. Alors, qu'est-ce que je peux vous faire entendre de Paul Oud? Eh bien, il aurait fait dans sa vie la narration d'un seul livre. Et je vais vous en offrir un extrait ici. On va reconnaître aussi la voix de son frère, Pierre. On va reconnaître la voix de Mathieu Biron dans le rôle de Sidney Crosby, qui se raconte dans cette biographie avec d'autres voix. Mais celui qui en fait la narration, c'est Paul Oud.
Sidney Crosby est l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Ce documentaire audio explore l'incroyable parcours de Sidney Crosby depuis ses tout débuts dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec jusqu'à la conquête de sa toute première Coupe Stanley en 2009.
Et la Coupe Stanley ira au Penguin de Pittsburgh.
Celui qu'on surnomme le prochain Gretzky vivra l'une des saisons les plus tumultueuses et les plus analysées de l'histoire du hockey professionnel. Crosby n'a que 18 ans quand on lui demande de porter sur ses épaules le fardeau d'une franchise en ruine.
Tu te demandes si Sidney Crosby va en profiter pour exploser, tu sais. Ils vont-tu devenir bons?
Que tout ça se passe à ma première saison, c'était comme... T'aurais pas pu faire rentrer autant d'événements là, différents dans une saison.
Ici Paul Oud, acteur, animateur et commentateur sportif et fan de hockey depuis toujours. Et je me souviens du moment inoubliable où on a vu Sid the Kid partir vers Pittsburgh.
J'animais mon émission, j'étais en direct, quand j'ai appris que les Pingouins avaient gagné la loterie. J'ai carrément pleuré en onde. Je savais ce que ça voulait dire pour l'équipe. Je savais que c'était le début d'une autre époque glorieuse.
C'est difficile comme recrue d'arriver avec ce genre d'attente-là.
T'es rendu à ce niveau-là, tu te dis, OK, les jeunes, on va voir dans la Ligue nationale. On va voir si t'es si bon que ça.
Sidney Crosby est un gars réservé et discret, mais il a accepté pour cette production originale audible de replonger dans cette année en montagne russe. Aux côtés de sa famille, de ses entraîneurs et de ses anciens coéquipiers, Crosby nous parle en toute liberté de l'intense pression qu'il subissait, de l'expérience surréaliste, de lasser ses patins devant son idole d'enfance, Mario Lemieux, ou encore entendre la vérité sur sa rivalité avec Alex Ovechkin. Et il nous raconte même comment c'était de monter sur la glace de Philadelphie sous le refrain assourdissant des Crosby Sox.
Ça devient beaucoup plus réel quand t'arrives dans la LNH. Je veux dire, les défis sont tellement plus importants. Tu sais, il y a beaucoup en jeu, là.
Voici Sidney Crosby, comme vous ne l'avez jamais entendu auparavant.
Jouer dans la Ligue nationale, c'était un rêve, mon rêve. C'était comme, OK, là, t'es rendu là, maintenant... Fais quelque chose avec ça.
Voici Sidney Crosby, l'année recrue, seulement sur Audible.
Voilà, c'était cette bande-annonce de ce livre qui nous a permis de réentendre la voix de Paul Oud. Je ne me fais toujours pas à l'idée que cet homme-là a quitté la Terre. Et puis, pardon à Mathieu que j'ai renommé Biron comme le joueur de hockey, mais c'est bien de Mathieu Baron dont il s'agit. Alors, le classique du jour, Oscar Wilde. Pourquoi lui? Eh bien, parce que dans la prison où il a été condamné entre les années 1895 et 1897, hein, il avait été condamné pour grave immoralité en raison de son homosexualité. Eh bien, dans cette raison-là, on a décidé de faire un lieu culturel, un espèce de centre éducatif. Et je suis convaincue que ça lui aurait beaucoup plu à M. Oscar Wilde, dont nous allons entendre un extrait. C'est le portrait de Dorian Gray. Et oui, je n'ai pas mieux à vous offrir. C'est malheureusement le seul qui ait été enregistré en audio en français. En anglais, si vous en voulez, il y en a beaucoup plus que ça. Alors, extrait.
Il est des moments où il faut choisir entre vivre sa propre vie pleinement, entièrement, complètement, ou traîner l'existence dégradante, creuse et fausse que le monde dans son hypocrisie nous impose.
Au milieu de la chambre, sur un chevalet droit, s'érigeait le portrait grandeur naturelle d'un jeune homme d'une extraordinaire beauté. Et en face était assis, un peu plus loin, le peintre lui-même, Basil Hallward, dont la disparition soudaine quelques années auparavant avait causé un grand émoi public et donné naissance à tant de conjectures. Comme le peintre regardait la gracieuse et charmante figure que son art avait si subtilement reproduite, un sourire de plaisir passa sur sa face et parut s'y attarder. Mais il tressaillit soudain, et fermant les yeux, mit les doigts sur ses paupières comme s'il eût voulu emprisonner dans son cerveau quelque étrange rêve dont il eût craint de se réveiller. « Ceci est votre meilleure œuvre, Basil. La meilleure chose que vous ayez jamais faite, » dit Lord Henry, languissamment. « Il faut l'envoyer l'année prochaine à l'exposition Grosvenor. L'académie est trop grande et trop vulgaire. Chaque fois que j'y suis allé, il y avait là tant de monde qu'il m'a été impossible de voir les tableaux, ce qui était épouvantable. » Ou tant de tableaux que je n'ai pu y voir le monde, ce qui était encore plus horrible. Grosvenor est encore le seul endroit convenable. Je ne crois pas que j'enverrai ceci quelque part, répondit le peintre, en rejetant la tête de cette singulière façon qui faisait se moquer de lui ses amis d'Oxford. Non, je n'enverrai ceci nulle part. Lord Henry leva les yeux, le regardant avec étonnement à travers les minces spirales de fumée bleue qui s'entrelaçaient fantaisistement au bout de sa cigarette opiacée. « Vous n'enverrez cela nulle part ? Et pourquoi, mon cher ami ? Quelle raison donnez-vous ? Quel singulier bonshomme vous êtes, vous autres peintres ! Vous remuez le monde pour acquérir de la réputation. Aussitôt que vous l'avez, vous semblez vouloir vous en débarrasser. C'est ridicule de votre part. Car s'il n'y a qu'une chose au monde pire que la renommée, c'est de n'en pas avoir. Un portrait comme celui-ci vous mettrait au-dessus de tous les jeunes gens de l'Angleterre et rendrait les vieux jaloux, si les vieux pouvaient encore ressentir quelque émotion. « Je sais que vous rirez de moi, » répliqua-t-il, « mais je ne puis réellement l'exposer. J'ai mis trop de moi-même là-dedans. » Lord Henry s'étendit sur le divan en riant. « Je savais que vous ririez, mais c'est tout à fait la même chose. » « Trop de vous-même. Sur ma parole, Basil, je ne vous savais pas si vain. Je ne vois vraiment pas de ressemblance entre vous, avec votre rude et forte figure, votre chevelure noire comme du charbon, et ce jeune Adonis qui a l'air fait d'ivoire et de feuilles de rose, car mon cher, c'est Narcisse lui-même. Tandis que vous, il est évident que votre face respire l'intelligence et le reste, mais la beauté, la réelle beauté finit où commence l'expression intellectuelle. »
J'aime tant cette voix de Denis Podalydès lisant un extrait du portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Pour finir cette demi-heure, le roman historique de la semaine, La Louisiane de Julia Maley, c'est lu par Valérie Muzzi. C'est un truc qui dure 12 heures à écouter. C'est vraiment une grosse brique. On est en 1720 avec Marguerite Pansatelin, qui est la supérieure de la Salpêtrière, qui est mandatée pour sélectionner une centaine de femmes volontaires qui seront envoyées en Louisiane afin d'y épouser des colons français. C'est vraiment un livre d'aventure, un livre d'une profondeur apparemment et d'une émotion saisissante qui nous transporte au cœur de cette terre impitoyable qu'était à l'époque la Louisiane.
Marguerite enlève sa coiffe. Elle ne devrait pas être à son bureau après le coucher du soleil, mais dans son jardin, sous le mimosa en fleurs, avec ses épais bouquets qui lui rappellent les perruques de certains hommes. Là, au milieu des pâquerettes et des asphodèles, elle parvient à oublier la véritable odeur de la Salpêtrière. Elle ouvre un dossier presque vide. Ses mains sont devenues maladroites, agitées de tremblements soudains, et la liste de l'année précédente manque de filer sous le secrétaire. Depuis presque un an et demi, elle choisit les femmes envoyées au Mississippi. Sa première sélection a plu à l'avocat général. Dans son courrier, M. Joly de Fleury lui annonce que le gouverneur de Louisiane en personne réclame davantage d'épouses pour la colonie. Marguerite approche la bougie de la feuille. Ce soir, elle ne sait pas par où commencer. Les choses étaient différentes l'hiver dernier. L'idée de transférer des détenus au Mississippi était la sienne. Elle avait été libre de choisir les candidates idéales. À la salpêtrière, il ne restait plus assez de lits pour celles qui avaient véritablement besoin d'un refuge. Les dortoirs étaient occupés par des filles qui ne changeraient jamais. Il lui avait suffi de décider de qui elle voulait se débarrasser en premier, des empoisonneuses, des libertines, des rebelles ou des sorcières. Oui, cette première liste comprenait toutes sortes de prisonnières. Des 209 pensionnaires sélectionnés l'an passé, elle se souvient particulièrement bien de la fabulatrice qui, depuis la prison des femmes, avait passé son temps à hurler des insultes sordides contre le roi. Mais cette fois, fini les filles enfermées à la grande force. Monsieur Joly s'est montré clair. Le gouverneur Bienville ne veut plus d'anciennes détenues, mais demande environ 90 futures mères, des femmes fertiles, compétentes, discrètes. Ce qui, pour Marguerite, signifie des repentantes de la maison de correction ou des filles de l'orphelinat de la Salpêtrière, la maison Saint-Louis. Elle imagine aussitôt Charlotte Couturière, l'orpheline rousse de 12 ans embarquant pour la Louisiane, cette contrée inconnue et barbare qui lui inspire plus de crainte que d'admiration. Non, pas Charlotte. La fillette restera à la Salpêtrière, sauve. Dans quelques années, elle pourra y devenir sœur officière. Le Mississippi a besoin de femmes fortes. Elle remue sa plume dans l'encrier. La fabulatrice avait une sœur plus jeune, pas encore corrompue. Marguerite essaie de se souvenir de son prénom, mais seul son nom lui revient. Sous le titre « Passager de la baleine », elle écrit « 1. Étiennette ou Antoinette Janson, entre 15 et 17 ans. » Plus que 89 noms à ajouter. Marguerite s'appuie contre le dossier de sa chaise et la douleur galope de ses pieds à son cou. Dans le pot en porcelaine, l'encre se souvient des cercles dessinés par sa plume.
« Madame ?»
De l'autre côté de la porte, la femme répète le même mot d'une voix plaintive. Mademoiselle Bailly sait qu'elle n'a rien à faire ici après qu'on plie la dernière prière du soir.
« Qu'y a-t-il ?»
La porte en bois gémit lorsque la nouvelle assistante entre dans la pièce. Ses gestes reflètent sa manière de penser, grossière, méticuleuse, timorée.
« Que voulez-vous ? » ?»«
La sous-officière de la Grande Force a signalé de nouveaux cas de morsures de rats. »
Voilà, sur une marche funèbre typiquement louisianaise, vous écoutiez un extrait de la Louisiane de Julia Maley, Maley, M-A-L-Y-E. C'est comme ça que ça s'écrit, lu par Valérie Muzzi, un bon livre à écouter par les oreilles et qui dure 12h45. Alors imaginez la brique sur papier. C'est Clotilde Sey qui anime pour vous l'émission Des livres plein les oreilles, produite par Canal M, avec l'ami Mathieu Tessier qui est en régie. Nous lâchez pas, hein. On revient tout de suite. Des livres plein les oreilles, seconde partie. Faline Beaubier sera avec nous et nous présente trois livres fort intéressants dont certains sont en nomination, voilà, pour des prix littéraires, soit au Canada, soit au Québec, et un prix du Polar de Landerneau. Pour finir cette seconde demi-heure, des nouveautés très différentes l'une de l'autre. Nous nous retrouverons dans l'univers de Sylvain Tesson qui cite Maeterlinck en disant « C'est bien curieux les hommes, depuis la mort des fées, ils n'y voient plus du tout et ne s'en doutent point ». Son livre s'appelle « Avec les fées ». Et puis direction l'univers de Stephen King qui nous offre une plongée dans la folie humaine, là où l'épouvante n'a pas de limite. Cette fois-ci, ça s'appelle « Holly ». Mais tout de suite, Faline Beaubier. Bonjour chère Faline.
Bonjour, ça va ?
Oui, ça va très très bien vous-même.
Oui, moi aussi.
Bon, alors écoutez, je suis ravie que vous ayez à nouveau accepté cette invitation parce que vous allez entre autres nous parler d'un livre. Honnêtement, je l'ai évoqué la semaine dernière, mais j'avais envie aussi qu'on en reparle parce que je pense que c'est un livre audio vraiment fort intéressant et qui méritait que, ben, ma foi, on en fasse mention deux semaines de suite. Je vous laisse nous le présenter, Faline.
OK, très bien. Alors, c'est le livre « Petite salle » par Louise May, qui a gagné le prix Landerneau Polar, je pense, il y a quelques semaines.
Oui, c'est ça.
Oui, donc c'est un livre fort intéressant. Et quand on parle du livre, les critiques, ils parlent vraiment de, ils appellent ça un roman de société sur la France des années 60 et des luttes entre pauvres et riches, femmes, hommes, villes, campagnes. Donc, c'est un livre intéressant. Personnage principal, c'est Catherine. Catherine qui est pauvre, qui parle peu, qui travaille pour monsieur, lui qui est riche, qui travaille sur une ferme. Et l'histoire, c'est... ça part d'un fait divers, réel, je pense, qui est arrivé aux années 60, où il y a une petite fille de 3 ou 4 ans qui a été enlevée d'une famille riche. Et c'est la même chose qui va arriver dans Petite Salle. Et Catherine, qui passe inaperçue par tout le monde, va essayer de se faire même plus invisible à ce moment-là, parce que, en fin de compte, elle est la dernière personne à avoir vu la petite. Donc, c'est vraiment un livre intéressant. On a fait une comparaison au film de Claude Chabrol.
Oui.
Et j'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai vu un de ses films, La Cérémonie.
Oui.
Et ça parle justement d'une jeune femme pauvre qui commence à travailler comme femme de ménage pour une famille bourgeoise à la campagne.
Oui.
Elle est analphabète. Et c'est vraiment l'atmosphère que j'ai trouvée... semblable.
Oui, c'est, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que Chabrol, de toute façon, il a beaucoup tourné comme ça dans des, dans des provinces, dans des régions, et c'est quelqu'un qui a fait, qui a planté sa caméra au sein de sociétés comme ça très différentes, et pour marquer la différence, effectivement.
Ouais, c'est ça.
Oh, wow. Ouais. Bon, ben, et il s'appelle comment le film? Est-ce que c'est La Cérémonie, c'est ça?
La Cérémonie.
Ok. Et nous, là, nous parlons en ce moment du livre qui s'appelle Petite Salle de Louise May, et je vous propose qu'on en écoute un extrait.
Elle a apporté un café dans le bureau de monsieur. Il y avait la facture détruite. Et elle a su qu'elle valait, elle, Catherine, moins qu'un porc. Elle a regardé les mains de monsieur. Des mains qui n'avaient pas touché la terre depuis longtemps. Des mains à compter les sous, à signer des papiers. Elle a imaginé le café brûlant renversé sur ses doigts aux poils bruns et blancs. Les brûlures, la peau fondue. Elle s'est imaginé lui faire mal. Mais en hiver, la maison est froide. En hiver, tout est froid. Et d'être montée de la grande cuisine jusqu'au premier étage, la tasse avait déjà cessé de fumer. Il n'aurait pas eu mal. Pas assez. Pas assez pour réparer. Pas assez pour lui faire oublier que les filles comme elle, Catherine, valent moins qu'un porc. Alors elle a posé la tasse, en essayant de toutes ses forces de ne pas trembler. Et elle est sortie, vite. Parce que ses doigts-là, Catherine les connaît. Parce que monsieur possède tout et prend ce qui lui chante. Et que si elle ne pouvait pas le réduire en cendres, alors il valait mieux partir. Mélie lui fait des signes impatients. Dit « Mais viens donc !» Catherine serre la poignée du seau dans sa main. Elle est venue jeter les pelures au cochon, et elle a osé regarder au loin. Rien que ça, on dirait que c'est une offense.
Oui, on pense aussi à un cendrillon moderne. Hein. Allô ?
Oui.
Allô? Non, non, je disais, on pense aussi un peu à un cendrillon moderne, je trouve.
Oui, c'est vrai, oui.
Alors, Petite Salle de Louise May, c'est élu par Maria de j'arrive pas à lire son nom, mais en tout cas, c'est Maria Di Baia, je pense.
Marie Dubled.
D'accord, il faut vraiment que je change de lunettes. Marie Dubled, merci beaucoup, c'est Mathieu, c'est la voix de Mathieu Tessier que vous avez entendue. Un autre livre, je pense, important, surtout en ce moment, parce que c'est un phénomène de société qu'on a vu apparaître il y a quelques années et dont on parle de plus en plus. Je vous laisse présenter le prochain livre.
Ok, très bien. Alors, deuxième livre, c'est 11 brefs essais queer. Et c'est dirigé, ou c'est sous la direction de Marie-Ève Kingsley, qui s'identifie comme non-binaire. Donc, elle s'est entourée d'artistes, il y en a qui sont très ou peu connus, dans la communauté queer. Et c'est surtout pour qu'ils témoignent de leur vécu, de leur expérience physique, sensuelle et psychologique du monde. Donc, c'est dans la description du livre, on parle des 11 autoristes,
oui,
dont vous n'avez pas rencontré avant, qui racontent leurs expériences.
Oui.
Ça peut être par des récits, des poèmes, des manifestes, des réflexions. Donc, vraiment, livre intéressant. Et une chose que j'ai trouvée aussi intéressante de la part de Kingsley, qui est celle qui dirige le livre dans un sens,
oui,
c'est qu'elle dit que pour elle et pour les personnes qui participent, ce n'est pas un livre qui est contre l'hétérosexualité.
Non, non, c'est ça.
Tout simplement, c'est pour essayer de parler de gens qui sont peut-être qui ne sont pas très connus,
mm-hmm,
ou qui ont des problèmes à sortir du cadre qui nous est permis,
oui,
qui est assez étroit.
Oui, vous avez raison. Et puis il n'y a pas de doute que quand on ne vit pas la réalité de ces personnes-là, on n'a aucune espèce d'idée de ce que l'on peut ressentir, hein. Et je pense que ce n'est absolument pas revendicateur, mais au contraire, c'est une série d'essais qui nous éclaire un peu, si
oui,
tant est que
oui,
ce soit faisable. C'est bien ça.
Oui.
Alors, on va écouter un extrait de 11 brefs essais queer de Marie-Ève Kingsley.
Pour toutes les fois où nous avons été harcelés, violentés, terrorisés, que nous avons refusé de vivre dans la peur, avons continué à guérir nos plaies, celles de nos ancêtres, celles des générations à venir, nous avons refusé de disparaître. Pour toutes les fois où nous sommes revenus, de la mort, pour revenir à nous-mêmes, pour revenir à l'amour, où nous nous sommes accrochés, et nous nous sommes aimés, nous avons refusé de disparaître. Et pour toutes les fois où nous nous sommes célébrés, où nous avons chanté notre résilience, dansé notre beauté jusqu'au matin, où nous avons loué notre force, notre tendresse, notre magie, pour toutes les fois où nous n'avons pas oublié qui nous étions, qui nous avons toujours été, qui nous continuerons à être, nous avons refusé de disparaître.
Ça aurait pu s'appeler comme ça, ce bouquin-là. Nous avons refusé,
oui,
de disparaître.
Hein.
Très, très, très bel extrait. On a encore le temps pour un troisième livre, Faline.
Oui, alors le prochain livre, c'est L'Avenir, par Catherine Leroux.
Mm-hmm.
Et c'est un des 5 livres qui figurent dans le concours Canada Read cette année. Donc, traduit en anglais, bien sûr. Mais ce livre, je l'ai trouvé très intéressant parce que c'est comme, c'est vraiment ce qu'on dirait, j'ai trouvé le mot uchronie, mm-hmm, c'est-à-dire c'est une réalité alternative. Donc, le livre se passe dans l'avenir et ça se déroule dans un détroit, donc ville américaine inventée un peu. Ici, dans le livre, c'est devenu Fort Détroit, où la population aurait continué à parler français bien après la fondation par Cadillac de la ville de Détroit en 1700, je pense. Mais il est aussi directement inspiré du Détroit d'aujourd'hui.
Ah.
Et l'auteur, elle raconte, « J'ai vu des documentaires comme Détroit, ville sauvage, de Laurent Tillon. J'y suis allée aussi. Cette métaphore est presque trop belle pour être vraie. Détroit, c'est la ville des chars qui a permis la conquête de l'Amérique par l'automobile et la pollution qui en résulte. Et là, Détroit est laissée à elle-même. Elle est en train de couler. Et ce que les gens font, c'est qu'ils reprennent ces terrains et les transforment en quelque chose qui peut donner de la nourriture au propre comme au figuré. Donc, l'histoire dans l'avenir, c'est vraiment l'avenir, c'est un monde qui est en train de s'écrouler, surtout au point de vue écologique. Mais donc, ça pourrait être vraiment une sorte de dystopie. Mais ce qui est différent avec elle, je pense, c'est que pour Catherine Leroux, elle croit que l'être humain est né pour s'entraider et non pour dominer son prochain. Donc, c'est un peu un livre qui est une sorte d'antithèse à quelque chose comme La route de Cormac McCarthy. Donc, parce que dans ces livres-là, on parle de l'avenir, mais c'est surtout un avenir où les humains sont en compétition, où c'est un avenir brutal. Mais c'est pas du tout la même chose avec Catherine Leroux.
Écoutez, je suis en train de lire un petit peu les commentaires sur ce livre-là. Effectivement, c'est un livre qui a été très bien reçu. Est-ce qu'on peut penser que c'est un livre quoi, de science-fiction, d'horreur?
Je dirais, il y a un côté science-fiction parce que c'est un monde imaginé.
Oui.
Et on lui a demandé s'il s'agit... Est-ce que c'est un livre... Est-ce que c'est le livre d'une angoissée? Donc, elle répond, l'auteur, en disant « Oui, il y a de l'angoisse, bien sûr, à cause de ce qu'elle appelle l'éco-anxiété. Mais pour elle, c'est aussi, elle trouve qu'elle essaie de donner une réponse optimiste à des questions qui sont très sombres. »
Oui, je comprends.
Et les personnages aussi qui figurent dans le livre, il y a surtout les enfants qui essaient de refaire le monde en un sens.
Un fort intéressant l'avenir de Catherine Leroux. On va en écouter un extrait si vous le voulez bien.
Nous savons que nous sommes irréparables. Citation de Alexis Morin. Après la mort de Judith, Cassandra s'est mise à avoir mal à la tête. Et chaque fois que sa sœur lui dit de se taire, ça élance, comme un cœur qui bat contre l'os. Elle a songé à se percer le crâne, comprenant finalement la raison d'être de la trépanation. Elle aurait voulu qu'on lui perfore l'os frontal, laisser fuir le mal par cet orifice comme l'air d'un ballon, le pus d'un abcès. Par moments, la migraine l'aveugle, et dans ce sombre éblouissement, Judith apparaît au fond du bain. Elle se revoit, penchée sur son corps, essayer de l'embrasser, en être incapable, pleurer, et pendant une horrible fraction de seconde, les yeux de la morte s'ouvrent brusquement, comme pour lui signifier qu'elle ne sera jamais complètement disparue, lui annoncer, avec toute la hargne d'une noyée, qu'elle la hantera pour toujours.
Eh bien, c'est là-dessus qu'on va se quitter sur cet extrait de L'amour de Catherine Leroux. Merci beaucoup, Faline Bobier, pour votre nouvelle participation.
Et merci, Clotilde.
Je vous en prie. À la prochaine.
OK. Au revoir.
Au revoir. L'été venait de commencer quand je suis partie chercher les fées sur la côte atlantique. Je ne crois pas à leur existence. Aucune fille libellule ne volait en tutu au-dessus des fontaines. C'est dommage, les yeux de l'homme moderne ne captent plus de fantasmagories. Voilà, c'est ainsi que commence ce livre dont je vous présente un extrait tout de suite, avec les fées, de Sylvain Tesson. C'est lu par Pierre Ancis.
J'avais un plan, bivouaquer sur le sol d'un Finistère avant de prendre le large. Une nuit de veille à la fin des terres. Ensuite, je rejoindrai le bord. J'aime les nuits du départ. On se couche, on rêve, on regrette ce que l'on quitte. Je vois des fées partout, avait écrit le poète Paul Fort. Quelle chance, me disais-je enfant. J'en rêvais moi aussi. Adulte, j'y renonçais, comprenant que la fée ne se rencontre pas. Elle se convoque, prenant le nom de tout moment où recule le vacarme des hommes, la bêtise des chiffres. Je dormis à l'extrême ouest de l'Espagne, en Galice, au Castro de Baronia, sur un éperon de granit avancé dans les flots. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, des hommes vivaient là, tenant leur poste devant le couchant. Ils étaient venus des profondeurs de l'âge du bronze et de l'Europe centrale. Ils s'étaient établis sur les parapets de l'Occident et maintenus pendant que les Romains s'occupaient à structurer le territoire. Subsistaient leurs fondations, des cercles sur un replat rocheux. Ici, on avait prié le soleil et forgé des bijoux derrière des remparts. C'était le temps où l'autre constituait le danger principal. Je me couchais contre un soutènement au-dessus du ressac. Il y a 2000 ans, les mêmes vagues résonnaient sur le même granit. La mer ne fatigue pas. Je sentais vibrer l'onde dans mon dos. Qui avait mis en marche la première vague? Tout a changé dans ce monde sauf le roulement de la mer, la grandeur du ciel et la chaleur de la lumière sur la peau. L'une des joies de la vie est de capter ces phénomènes éternels. Il y avait les flammes du feu, le chant des oiseaux, le vent dans les avoines, un sourire parfois à travers une mèche de cheveux. Les motifs de l'ouest atlantique se trouvaient disposés autour de moi. Les granits usés, les fougères et les ronces qui déchiraient le vent. Il régnait une jeunesse dans cette nature pointue. Parfois le mauve d'une bruyère mettait une préciosité dans la matrice d'iode et de photons. Pendant 3 mois, je ne quitterai pas l'héraldique de ce tapis. Vive la mouette et l'ajon. La nuit tomba, je restais éveillé jusqu'à 2 heures, songeant au bras blanc de mon ami. Je m'en étais arraché, mais j'entendais la mer. Les troubadours du XIIe siècle le savaient. Le vent et les vagues convoient le souvenir de la bien-aimée. Conseil au cœur brisé, dormir sur les grèves. Le lendemain, un chasseur me réveilla. Il patrouillait contre le talus d'accès du Castro. 5 beaux chiens de chasse, des bassets Hound, levaient les alouettes, dérangeaient les barges, coursaient un lièvre éperdu, jappaient, pissaient, furetaient, bave aux joues, queue battante. Oui, vraiment, le meilleur ami de l'homme. Les promontoires. Pendant 2 jours, roulant vers Gijón, je reliais les caps. Noble activité d'aller au bout des terres, s'asseoir sur des rochers. D'abord le cap de Navé, vrai Finistère de l'Espagne, puis Ortegal, cap nord de la péninsule où l'Atlantique se dissout dans le golfe de Gascogne, et enfin le cap de La Puntas dans les Asturies avec ses bistres veinés de quartz. S'arrêter et regarder la mer. Première leçon d'un bréviaire du romantisme. Chassé vers l'ouest au 5e siècle avant le Christ par la poussée ouralo-stépique, les peuples celtes du Danube et des plaines à roseaux s'étaient repliés sur les promontoires. Ici, aux loges de l'océan, ils avaient regardé le soleil mourir. Ils l'avaient prié car on espère toujours le retour de l'Éternel. Leurs descendants portaient aujourd'hui des regards pâles. L'iris des yeux s'était délavé. Définition de l'esprit celte, demeurer au bord du vide. Adorateurs du crépuscule, ces hommes avaient été condamnés à disparaître. D'eux, on ne savait pas grand-chose. Les linguistes prétendaient qu'ils formèrent un peuple uni. Des archéologues reconstituaient les chapitres de leur circulation en exhibant des torques et des lames de bronze. L'université s'excitait devant des tertres funéraires. Le reste, une construction de littérateurs fascinés par le reflet de la lune sur les marécages.
Aux loges de l'océan, qu'est-ce que c'est beau. Mais oui, c'est du Sylvain Tesson, c'est pour ça que je vous l'ai fait entendre cet extrait. Tout Tesson, c'est comme ça, c'est des mots comme du verre éclaté, comme des tessons de bouteille, mais lui, il arrive toujours à coller les morceaux. C'est assez extraordinaire. Alors, qui nous promène, là, il est dans les Pyrénées, il est du côté basque de là, donc en Galicie, en Espagne, et puis il va nous emmener aussi en Cornouaille, il va nous amener au Pays de Galles, en Irlande, en Écosse, et il dit que tous ces lieux-là, entre eux, si on les reliait, dessinaient comme un arc. Par voie de mer, il écrit Tesson, j'allais relier les miettes de ce déchiquettement. En équilibre sur cette courbe, on était certain de capter le surgissement du merveilleux. Puisque la nuit était tombée sur ce monde de machines et de banquiers, je me donnais 3 mois pour essayer d'y voir. Je partais avec les fées. Ça s'appelle d'ailleurs Avec les fées de Sylvain Tesson. C'est une vraie merveille et remarquablement lu par Pierre Encis. on tombe dans autre chose, mais alors complètement. Avec Stephen King, c'est son petit dernier, ça s'appelle Holly, 16h27, une brique encore monumentale. Holly Gibney, pour ceux qui connaissent bien le personnage, c'est un des plus appréciés de Stephen King. Il fait un grand retour dans ce roman. Nous sommes dans une jolie maison victorienne d'une petite ville du Midwest. Une maison dans laquelle on retrouve Emily et Rodney Harris, anciens professeurs d'université qui mènent une vie de retraité actif. Mais voilà, Tipa, que autour de leur maison, les gens, surtout des jeunes, disparaissent comme des mouches. Voilà, c'est le point de départ de ce livre Holly de Stephen King, dont on écoute un extrait.
Sa femme, si cassante et autoritaire lors des réunions du département, semble un peu perdue, abandonnée. Elle est trempée. Jorge se demande depuis combien de temps ils sont là. Dehors. Et pourquoi elle n'a pas appelé quelqu'un à la rescousse? Peut-être qu'elle n'a pas de téléphone, ou bien qu'elle l'a laissé à la maison. Les personnes âgées ne pensent pas toujours à ce genre de choses. Pourtant, elle ne doit pas avoir plus de 70 ans. Son mari, en revanche, paraît plus vieux. « Je crois que je peux vous aider. Vous avez ôté le frein ?»« Oui, oui, bien sûr, » répond Emily Harris. Elle s'écarte lorsque Jorge saisit les poignées du fauteuil et le fait pivoter face à la rampe. Il recule de 2 ou 3 mètres pour prendre de l'élan. Les fauteuils roulants motorisés sont tout sauf légers. Et il n'a aucune envie de rester bloqué au milieu de la rampe, obligé de reculer. Ou pire, de faire basculer le fauteuil sur le côté et d'expédier le vieil homme à terre. « C'est parti, monsieur Harris. Accrochez-vous, ça risque de secouer. » Harris agrippe les mains courantes et Jorge s'étonne de la largeur de ses épaules. Il devine les muscles sous le gilet. Sans doute que les personnes privées de l'usage de leurs jambes compensent d'une autre manière. Jorge fonce vers la rampe. « À l'assaut !» s'exclame joyeusement monsieur Harris. La première moitié de la montée ne pose aucun problème. Puis le fauteuil commence à perdre de son élan. Jorge s'arc-boute et continue à pousser. Alors qu'il effectue sa béa de voisin, une étrange pensée lui traverse l'esprit. Dans cet état, les plaques d'immatriculation sont rouges et blancs. Et alors que les Harris vivent dans Ridge Road, comme lui, il voit souvent Emily Harris dans son jardin, les plaques du van sont bleues et blancs, comme celles de l'état voisin, à l'ouest. Autre détail troublant, il n'a jamais vu ce van dans la rue. Alors qu'il a souvent aperçu Emily, droite comme un i, au volant d'une Subaru arborant un autocollant Obama sur le pare-choc, car au moment où il atteint le haut de la rampe, penché presque à l'horizontale, bras tendus, pointe de pied flex, un insecte le pique dans la nuque. Un gros. Assurément, à en juger par la chaleur qui se répand en lui. Une guêpe, peut-être, et il fait une allergie. Il n'a jamais réagi aux piqûres d'insectes, mais il y a un début à tout. Et soudain, sa vue se brouille, ses bras faiblissent. Ses chaussures glissent sur la rampe mouillée et il pose un genou à terre. Le fauteuil va reculer et me tomber dessus. Mais non, Rodney Harris actionne une manette et le fauteuil bascule à l'intérieur du van avec un ronronnement satisfait. Harris se lève d'un bond, le contourne en sautillant, et toise l'homme agenouillé sur la rampe, les cheveux plaqués sur le front, le crachin semblable à de la sueur sur ses joues luisantes. Puis, Jorge s'écroule, la tête la première. « Regarde-moi ça !» s'exclame Emily tout bas. « Parfait !» « Aide-moi, » dit Rodney. Sa femme, qui porte des chaussures de running, elle aussi, saisit Jorge par les chevilles. Son mari prend les bras. Et il le hisse à l'intérieur du van. La rampe se rétracte. Rodney, qui est aussi vraiment le professeur Harris, soit dit en passant, s'installe sur le siège conducteur à gauche. Emily s'agenouille et ligote les poignets de Jorge avec des colliers de serrage en plastique. Précaution sans doute inutile, car il dort comme une souche. Expression éculée que désapprouverait certainement la vieille poétesse. Et ronfle bruyamment. « Tout va bien ? » demande le Rodney Harris du département des sciences de Bell College. Un PEC, répond Emily d'une voix vibrante d'excitation. On a réussi, Roddy. On l'a eu, ce fils de pute. Surveille ton langage, ma chérie. Rodney sourit. Mais oui, on a réussi.
Voilà, extrait de Holly de Stephen King qui vient mettre un terme à cette émission des livres plein les oreilles que je vous remercie infiniment d'avoir suivi avec nous. Passez le mot, vous savez que maintenant on peut nous écouter y compris sur YouTube. Si vous allez sur YouTube et vous faites des livres plein les oreilles, ah, vous voyez ma sainte face, mais pas animée par exemple. Ce sera juste une très jolie photo signée, voyons comment elle s'appelle, Marie-Lee Clark. Voilà, merci Mathieu Tessier, merci Faline Bobier qui était là tous les deux pour m'appuyer aussi à cette émission-là. Merci au Livre Audio d'exister, merci à vous aussi, aux gens de CKVL et à Canal M qui produit ce show-là. Je m'appelle Clotilde Sey, puis je serai très 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 heureuse de vous retrouver la semaine prochaine. Salut.